Bonjour, vous êtes sur www.fréquencemistral.com dans l'émission Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Et si tout ceci était dû à une simple rencontre, des mots d'ici, des mots d'ailleurs, tu as toujours le choix de laisser rentrer la lumière ou laisser les volets fermés. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs.
La poudrière de l'être intérieur ne saute pas toujours. On la croirait de sable. Puis, tout à coup, ce sable est à l'autre bout du monde et par des écluses bizarres descend la cataracte de bombes. En vérité, celui qui ne connaît pas la colère ne sait rien. Il ne connaît pas l'immédiat. Puis la colère rencontre la patience lovée sur elle-même. Sitôt touchée, celle-ci se dresse et se confond avec celle-là et fonce comme un obus, et tout ce qu'elle rencontre, elle le renie et le transperce. Puis, roulant ensemble, elle rencontre la confiance à la grosse tête et les autres vertus, et la débâcle s'étend sur toutes les zones. La vitesse remplace le poids et fait fi du poids. Comme un cil pointant au bord d'une paupière y est mieux à sa place qu'au bout d'un nez, la vélocité est à sa place dans l'être intérieur. Elle y est plus naturelle que dans la patte d'une tortue atteinte de paralysie. Quand la concupiscence allant ses bateaux de fièvre dans la campagne immense de l'être intérieur, quoi ? Qu'est-ce donc que cette brume qui monte ? L'être intérieur combat continuellement des larves gesticulantes. Il se trouve tout à coup vidé d'elles comme d'un cri, comme de détritus emportés par un ouragan soudain. Mais l'envahissement reprend bientôt par le bas et le calme d'un instant est soulevé et troué comme le couvercle des champs par les grains de blé avides de croître. Il faut voir l'être intérieur attaquant la concupiscence. Quel boulanger plonge à jamais d'aussi énormes mains dans son pétrin ? Quel boulanger vit-on pareillement accablé par la montagne mouvante, montante, croulante de la pâte ? Une pâte qui cherche le plafond et le crèvera. L'être intérieur collabore avec la concupiscence dans la joie ou avec réserve. Mais toujours il est traqué par cet envahisseur gonflant. L'être intérieur a tous les mouvements. Il se lance à une vitesse de flèche, il rentre ensuite comme une taupe, il a d'infinies hibernations de marmotte. Quel être mouvementé ! Et la mer est trop mesquine, trop lente pour pouvoir lui être comparée. La mer a la gueule ravagée. En face, attaquant à l'homme vaincu d'avance, la peur. Quand la peur au ruissellement mercuriel envahit la pauvre personnalité d'un homme qui devient aussitôt comme un vieux sac, écartant tout quand elle entre, en souveraine, s'assied et se débraille sur les sièges culbutés de toutes les vertus. Décongestif unique du bonheur, quand la peur langouste atroce, agrippe la moelle épinière avec ses gants de métal. Ô vie continuellement infecte, le désespoir et la fatigue s'unissent et le soleil se dirige d'un autre côté.
Hit folks, here's a story about Minnie the Moocha. She was a low-down hoochie-coocha. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Hidey, 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 hidey. About the king of Sweden, he gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with the platinum wheels. Hadi, 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 hadi.
This is glue, strong stuff.
Quittant le balcon où défilait le monde, quand il faut rentrer sans arcade dans la gueule froide de la journée grignoteuse, devant les centaines de boîtes qu'il faut remplir précipitamment, quand il faut quitter le grand vide admirable où l'on avait ses jours. Tristesse du réveil. Il s'agit de redescendre, de s'humilier. L'homme retrouve sa défaite, le quotidien. Ayant perdu les témoins de sa splendeur, il ne sait que dire. Il peut même passer pour un imbécile, un médiocre, un homme de rien. Cependant qu'il y a peu d'instants encore, il se trouvait entre les majestés, lui-même sur un trône, parmi les souverains masqués, et qu'en grande pompe le suivaient ses gens, tandis que s'élevant toujours plus haut encore, il abordait à la plateforme suprême, où seul le son des grandes trompettes de la victoire pouvait le rejoindre. C'est fini. En vain, le pauvre remonta d'un élan irrésistible le cours de son destin. En vain, il s'éleva. Il lui faut en un instant, et incertain s'il la reverra jamais, quitter sa vraie famille, les célestes siens, pour revenir parmi les étrangers qui se disent ses proches et ne le connaissent pas. Il regarde autour de lui, il se sent accablé. La journée le reprend comme un train omnibus prend sa charge de journalier. Allons en route ! Et il lui faut s'éloigner. Cependant, il se demande comment il pourrait rentrer dans le paradis perdu. Et qu'importe que ce soit parfois un enfer. Il médite l'évasion, car les mous sont les durs, ne se laissent ni vaincre, ni convaincre, et se reforment entier et agrandi sous la botte. Tous les moyens lui sont bons. Pas besoin d'opium, tout est drogue, à qui choisit pour y vivre l'autre côté. Attaquant son cœur à grands coups de café, ou même simplement de fatigue, ou même simplement d'imagination et du fluide intense de son désir, il décolle. Il regarde ensuite le monde des objets immobiles, mais qui commencent à chanter, à tenir la note. Les immeubles des boulevards, comme appelés à devenir d'immenses vaisseaux, commencent à se caréner. D'autres voûtes, entre les voûtes des monuments, se mettent à osciller lentement. Des plafonds descendent continuellement des plafonds, et sans remonter jamais. des visages émanés de son propre visage partout le regardent. Ses tempes chantent haut, en ténor, cependant que les agrès intérieurs se raidissent. Dans la tempête, il entend le monde, comme il sonne vraiment, qu'il résonne étrangement, il le voit aussi comme il est, jaune, essentiellement jaune et mêlé d'un peu de boue et d'ocre. Il est dans la trajectoire et la vie prend un tout autre sens. Chacun est après une autre chandelle. C'est la poursuite vertigineuse et il n'est pas de pont dans un tourbillon. Son cœur se met à sauter comme une balle. En sa poitrine, c'est à présent le barattement du lac de l'émotion. Comme des bulles, des horizons toujours nouveaux apparaissent, croissent, se dilatent, crèvent, réapparaissent, s'étirent, se dilatent, et encore, et encore. Progressivement et rapidement formés, des cuirasses de frissons maintenant l'isolent. Comme son idée profonde isole le somnambule et le retire de la nuit, de ses pièges et de son grave défaut de lumière. Dans le calme parfait qui précède les apparitions, son être galvanisé attend la révélation. Celle-ci vient ou ne vient pas, étant sous une autre dépendance. De toute façon, le versant est bientôt dépassé, car il y a toujours un versant et il retombe. Ce redoublement de fatigue, quoiqu'au premier abord décevant, lui est une nouvelle occasion de lâcher pied et de déserter l'odieux compartimentage du monde. Capitaine à la débâcle, il détruit les derniers échafaudages, il nivelle tout dans la cendre, il accomplit la ruine. C'est ainsi qu'il aura été un grand bâtisseur. Sans remuer un doigt, il aura été un grand aventurier. Ni but, ni buté, il faut savoir dévaler. C'est le jeu de la pierre qui roule. Il ouvre la fenêtre. Un instant après, il revient de plusieurs heures de vol. Tel est le temps pour lui. Telle est sa vie.
Réforme du code du travail, c'est pas qu'il y ait deux ou trois failles. Se résigner sans livrer bataille, qu'ils disent que l'on n'est pas taille, que les gens acceptent qu'on les assaille.
On vaut mieux que ça,
qu'on laisse gouverner le patronat.
On vaut mieux que ça,
qu'on cesse de gouverner par vos lois.
On vaut mieux que ça,
quelques irréductibles Gaulois face à l'envahisseur bourgeois qui voudrait piétiner nos droits.
On vaut mieux que ça,
la loi et le connerie,
on vaut mieux.
Et toutes ces conneries,
on vaut mieux.
Marre de ces moqueries en haut lieu nous.
On vaut mieux que ça,
que toute leur tromperie,
on vaut mieux.
Ça paye pas le bon prix.
On vaut mieux,
on a bien compris qu'on vaut mieux, ouais.
On vaut mieux que ça,
la réduction des temps de repos, les salaires peuvent faire de gros bons en arrière quand le haut de la pyramide veut me faut d'ajouter le fractionnement des 11 heures de la journée.
On vaut mieux.
Repos et euros à journée, non.
On vaut mieux que ça.
Les heures supplémentaires peuvent être 5 fois moins majorées. Les apprentis mineurs peuvent trimer 10 heures par jour. Les heures partielles à 24 heures, la semaine à 35 heures. Et d'autres qui t'a à cœur que cette loi vise à chourer. C'est au service des exploiteurs, des groupes les plus dévastateurs, à qui cette loi fait des faveurs que l'État a couré. Le plafonnement des indemnités, on peut pas se gourer. C'est pas pour aider le salarié car
on vaut mieux que ça.
Les plans de sauvegarde de l'emploi consistent en avirer les salariés sans quoi la barque est censée chavirer. Pour prétendu motif économique au mieux de ça, là qu'ils pourront se faire sans raison, mais
on vaut mieux que ça.
Passer de 10 à 12 heures de travail par jour,
on vaut mieux.
L'extension du dispositif forfait jour,
on vaut mieux.
Bosser gratos pour leurs beaux yeux par amour,
on vaut mieux.
Oui, patron Jacques,
on vaut mieux.
Ouais,
on vaut mieux que ça.
Et puis c'est vrai qu'aller s'épuiser,
on vaut mieux que ça.
S'enliser dans l'entreprise et se mépriser,
on vaut mieux que ça.
S'échiner,
mieux que ça.
Et se ruiner,
mieux que ça.
Et trimer pour déprimer, puis déprimer,
on vaut mieux que ça.
S'abîmer pour pas un rond pour des patrons,
on vaut mieux que ça.
Sous les recommandations d'Emmanuel Macron,
il vaut mieux pas.
Chez Fayon,
on vaut mieux que ça.
Et la ponte, c'est ça qu'on compte en fait d'affront,
on vaut mieux que ça.
Faire taf, non,
on vaut mieux que ça.
On vaut mieux que se tuer au boulot, que se maintenir la tête sous l'eau, que s'anesthésier le ciboulot. Pour l'heure,
on vaut mieux que ça.
On vaut mieux bosser au McDo, mettre en rayon des packs d'eau. On est loin de nos rêves d'ado.
C'est vrai qu'on vaut mieux que ça.
Perdre sa vie à la gagner, passer son temps à se manier. On est tous dans le même panier,
et on vaut mieux que ça.
D'autres pouvoirs pourront pallier, tant ils vont voir qu'on est pagné si on cesse les accompagner,
car on vaut mieux que ça.
Grève générale, ad vitam aeternam, va-t'y parler, réclame, tactique parler, c'est le drame. Pour la bourgeoisie, car Ricard, qui fabriquait sa cam, qui a trimé pour ses produits et sa gamme. Sans salariat,
aïe aïe aïe,
ça va pas, ah bah ça tombe bien, combien vaut-on à ce stade-là. On vaut mieux que leur dire qu'on vaut mieux que ça. Ils ont là appris qu'on se moque de savoir combien on vaut, car on n'a pas de prix, pas de prix.
On vaut mieux que ça, ouais.
Plume avait un peu mal au doigt. Il vaudrait peut-être mieux consulter un médecin, lui dit sa femme. Il suffit souvent d'une pommade. Et Plume y alla. Un doigt à couper, dit le chirurgien, c'est parfait. Avec l'anesthésie, vous en avez pour 6 minutes tout au plus. Comme vous êtes riche, vous n'avez pas besoin de tant de doigts. Je serai ravi de vous faire cette petite opération. Je vous montrerai ensuite quelques modèles de doigts artificiels. Il y en a d'extrêmement gracieux. Un peu cher sans doute, mais il n'est pas question naturellement de regarder à la dépense. Nous vous ferons ce qu'il y a de mieux. Plume regarda mélancoliquement son doigt et s'excusa. Docteur, c'est l'index. Vous savez, un doigt bien utile. Justement, je devais écrire encore à ma mère. Je me sers toujours de l'index pour écrire. Ma mère serait inquiète si je tardais davantage à lui écrire. Je reviendrai dans quelques jours. C'est une femme très sensible. Elle s'émeut si facilement. Qu'à cela ne tienne, lui dit le chirurgien, voici du papier. Du papier blanc, sans entête, naturellement. Quelques mots bien sentis de votre part lui rendront la joie. Je vais téléphoner pendant ce temps à la clinique pour qu'on prépare tout, qu'il n'y ait plus qu'à retirer les instruments, tout aseptisé. Je reviens dans un instant. Et le voilà déjà revenu. Tout est pour le mieux, on nous attend. Excusez, docteur, fit Plume, vous voyez ma main tremble, c'est plus fort que moi. Eh bien, lui dit le chirurgien, vous avez raison. Mieux vaut ne pas écrire. Les femmes sont terriblement fines, les mères surtout. Elles voient partout des réticences quand il s'agit de leur fils et d'un rien font un monde. Pour elles, nous ne sommes que de petits enfants. Voici votre canne et votre chapeau, l'auto nous attend. Et ils arrivent dans la salle d'opération. Docteur, écoutez vraiment. Oh, fit le chirurgien, ne vous inquiétez pas, vous avez trop de scrupules. Nous écrirons cette lettre ensemble, je vais y réfléchir tout en vous opérant. Et approchant le masque, il endort Plume. « Tu aurais quand même pu me demander mon avis, » dit la femme de Plume à son mari. « Ne va pas t'imaginer qu'un doigt de perdu se retrouve si facilement. Un homme avec des moignons, je n'aime pas beaucoup ça. Dès que ta main sera un peu trop dégarnie, ne compte plus sur moi. Les infirmes, c'est méchant. Ça devient promptement sadique. Mais moi, je n'ai pas été élevée comme j'ai été élevée pour vivre avec un sadique. Tu t'es figuré sans doute que je t'aiderais bénévolement dans ces choses-là. Eh bien, tu t'es trompée. Tu aurais mieux fait d'y réfléchir avant. » « Écoute, » dit Plume, « ne te tracasse pas pour l'avenir. » J'ai encore 9 doigts. Et puis ton caractère peut changer.
Ce matin-là, en me levant, j'avais bien mal aux dents. Oh là là, je sors de chez moi et je fonce en pleurant chez un nommé Durand. Quel dentiste son état et qui pourra m'arranger ça? La salle d'attente est bourrée de gens. Et pendant que j'attends, oh là là, sur un brancard passe un mec tout blanc, porté par 2 masters. Je me lève déjà pour foutre le camp, mais l'infirmier crie
poste suivant.
Je suis debout devant le dentiste, je lui fais un sourire de crétin. Il me pousse dans le fauteuil et crie en piste, il a des tenailles à la main. Oh maman, j'ai les guiboles en fromage blanc. Avant même que j'ai pu faire ouf, il me fait déjà sauter 3 dents. En moins d'une plombe, mes pauvres molaires sont retournés dans leur tombe. Oh là là, voilà qui me plombe mes deux plus belles dents, celles que j'ai par devant. Il me grille la gueule au chalumeau et il me file un bon verre d'eau. Il me dit, il faut régler votre dette, je venais d'être payé la veille. Ces salauds me fauchent tout mon oseille et me refilent 50 bananes. Oh, maman. Et il ajoute en rigolant, je suis plombier. Entre voisins, faut s'entraider. Oh. Et moi, je gueule ce soir le blues du dentiste dans le noir.
Maintenant qu'il n'y a plus de dents, qu'est-ce que je vais lui dire à ma pépi? Alors maintenant, me lève, je peux.
Plume ne peut pas dire qu'on ait excessivement d'égards pour lui en voyage. Les uns lui passent dessus sans crier gare, les autres s'essuient tranquillement les mains à son veston. Il a fini par s'habituer. Il aime mieux voyager avec modestie. Tant que ce sera possible, il le fera. Si on lui sert hargneux une racine dans son assiette, une grosse racine, allons manger, qu'est-ce que vous attendez? Bien, tout de suite, voilà. Il ne veut pas s'attirer des histoires inutilement. Et si la nuit on lui refuse un lit? Quoi? Vous n'êtes pas venu de si loin pour dormir, non? Allons, prenez votre mal et vos affaires, c'est le moment de la journée où l'on marche le plus facilement. Bien. Bien, oui, certainement, c'était pour rire naturellement, par plaisanterie. Et il repart dans la nuit obscure. Et si on le jette hors du train? Ah alors, vous pensez qu'on a chauffé depuis 3 heures cette locomotive et attelé 8 voitures pour transporter un jeune homme de votre âge, en parfaite santé, qui peut parfaitement être utile ici, qui n'a nul besoin de s'en aller là-bas, et que c'est pour ça qu'on aurait creusé des tunnels, fait sauter des tonnes de rochers à la dynamite et posé des centaines de kilomètres de rails par tous les temps, sans compter qu'il faut encore surveiller la ligne continuellement par crainte des sabotages? Bien, bien, je comprends parfaitement, j'étais montée pour jeter un coup d'œil. Maintenant c'est tout, simple curiosité, n'est-ce pas? Merci mille fois. Et il s'en retourne sur les chemins avec ses bagages. Et si à Rome, il demande à voir le Colisée? Ah non! Écoutez, il est déjà assez mal arrangé. Et puis après, monsieur voudra le toucher, s'appuyer dessus ou s'y asseoir. C'est comme ça qu'il ne reste que des ruines partout. Ce fut une leçon pour nous, une dure leçon, mais à l'avenir, non, c'est fini. Bien, bien. Je voulais seulement vous demander une carte postale, une photo peut-être, si des fois... Et il quitte la ville sans avoir rien vu. Et si sur le paquebot, tout à coup, le commissaire de bord le désigne du doigt et dit « Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là ? Ah, on manque bien de discipline là en bas, il me semble. Qu'on aille vite me le redescendre dans la soute, le deuxième quart vient de sonner. » Et il repart en sifflotant, et Plume, lui, s'éreinte pendant toute la traversée. Mais il ne dit rien. Il ne se plaint pas. Il songe aux malheureux qui ne peuvent pas voyager du tout, tandis que lui, il voyage. Il voyage continuellement.
Well, baby, but it never will again. No, not again. Train, train, coming down, down the line. Train, train, coming down the line. Well, it's bringing my baby. She's my all mine, she's my all mine.
C'était à l'aurore d'une convalescence. La mienne, sans doute, qui sait? Qui sait? Brouillard, brouillard. On est si exposé, on est tout ce qu'il y a de plus exposé. Médicastre infâme, me disais-je, vous écrasez en moi l'homme que je désaltère. C'était à la porte d'une longue angoisse. Automne, automne, fatigue. J'attendais du côté vomir, j'attendais, j'entendais au loin ma caravane échelonnée, peinant vers moi, patinant, s'enlisant, sable, sable. C'était le soir de l'angoisse. Le soir gagne, implacable à l'âge. Les grues, me disais-je rêveur, les grues qui se réjouissent de voir au loin les phares. C'était la fin de la guerre des membres. Cette fois, me disais-je, je passerai. J'étais trop orgueilleux, mais cette fois, je passerai. Je passe. Inouïe simplicité, comment ne t'avais-je pas deviné? Sans ruse, le poulet sort parfait d'un œuf anodin. C'était pendant l'épaississement du grand écran. Je voyais. Se peut-il, me disais-je, se peut-il vraiment ainsi qu'on se survole? C'était à l'arrivée, entre centre et absence, à l'Eureka, dans le nid de bulles.
D'abord, il s'appelle pas Léon, mais je me souviens plus de son nom. Je peux pourtant pas l'appeler Hortense. Et puis, ça n'a pas d'importance. Il a du bobo Léon, il va peut-être canner Léon. Il a du bobo Léon, oh pauvre Léon. On l'a mené à l'hôpital pour le soigner où il avait mal. Il s'était fait mal dans la rue, mais on l'a soigné autre part. Et il est mort.
La nuit était tombée depuis une heure environ. Un calme lourd régnait sur les eaux de Sébastopol. Igor avait un goût de hareng dans la bouche. Maintenant qu'il avait réussi à franchir les grilles de la caserne, tout son esprit n'était plus qu'un tunnel de métal dirigé droit vers la mer au-delà de la jetée du port militaire. Arrivé à la première digue de béton, il s'accroupit pour laisser passer le projecteur d'un garde-côte invisible au-dessus de sa tête. L'énorme lumière blafarde éclaira le mur gris d'un hangar puis disparut aussi instantanément qu'elle était apparue. Igor se redressa et en deux bonds il fut sur le sable. De tout ce qui au départ avait pu lui plaire dans l'apprentissage du génie maritime, que restait-il ? Encore un an à tirer sous les drapeaux. Impossible. Il avait pris sa décision presque par instinct, sans s'en rendre compte. Ce soir-là, prétextant l'oubli d'une règle à calcul sur le chantier, il s'était échappé du groupe des élèves officiers qui rentraient à la caserne. L'air décidé, il avait passé sans problème les deux sentinelles qui gardaient l'accès de la mer, puis avait prestement franchi un mur de parpaing, avait gagné l'un des minuscules plages qui bordaient la zone militaire nord. Plage est un bien grand mot. Prisonnière de deux grosses digues de béton qui s'enfonçaient jusqu'à une centaine de mètres au large, une minuscule langue de sable finissait de s'imbiber de mazout. C'est là qu'il avait attendu, pieds nus, comme en transe, blotti derrière les restes d'une carcasse de grues rouillées, en se mordant les genoux. En 19 ans, la vie lui avait fait quelques cadeaux, mais presque toujours en dépit des hommes, ou plutôt en marge des humains modernes. À 8 ans, un vieux Sibérien lui avait appris à se nourrir de fruits des bois, juste après qu'un chat à peine né, trouvé dans une flaque d'eau, l'eût initié au mystère du désir de survivre. Et c'était ce désir, à présent, qui lui faisait défaut. Comme tous les soviétiques, il avait grandi dans la hantise de la guerre. Mais à présent, Troisième Guerre mondiale ou pas, il en était sûr, le monde était fichu. 12 ans auparavant, en 1956, devant le comité central réuni à huis clos, Khrouchtchev avait prononcé ses fameux discours secrets contre Staline. Le père d'Igor, membre du comité, lui avait dit un mot. Mais qu'est-ce que cela changeait ? La machination systématique du monde allait-elle cesser pour autant ? À la différence de son père, ambitieux apparatchik de l'Oural, dont il vivait séparé depuis le plus clair du temps, Igor n'avait aucun goût pour la politique, pas plus qu'il ne partageait l'arrivisme matériel fiévreux de sa mère. Igor avait des rêves d'animaux, des rêves de nature, des rêves d'Indiens, mais les Indiens étaient morts, et les Tartares, et les chamans sibériens. Et tous ceux qui longtemps avaient réussi à garder un bout de secret animal. Les modernes les avaient tout bravement massacrés. La nature en était ressortie exsangue, saccagée. Igor n'avait qu'à regarder l'état d'extrême pourriture où se trouvaient les vaguelettes à quelques mètres de lui pour vaincre sa dernière réticence. Rien d'animal ne pouvait survivre dans cette purée sans qu'il puisse en formuler l'exacte raison logique. Cela le condamnait, lui aussi. Génériquement, l'être humain était devenu nuisible, inutile. Dès que le soir fut suffisamment tombé pour qu'on ne risque pas de le surprendre, Igor, les chines pliées pour éviter un éventuel coup de projecteur des gardes, se dirigea vers l'eau sale qui clapotait sur les galets gras. Sans même prendre la peine de se déshabiller, il s'immergea doucement, comme un batracien dans un marais. En quelques brasses, il fut au bout de la jetée. Ses vêtements le gênaient considérablement dans son avancée, mais il ne s'avisa pas de les retirer. Au contraire, ce poids supplémentaire allait obscurément dans le sens de son plan. Parvenu à la hauteur des grands bâtiments de guerre qui mouillaient au centre du port, il se contenta de se retourner et se mit à nager sur le dos, en méduse, bras et jambes puisant de chaque côté comme des algues, au rythme lent des vagues. Le visage presque submergé, les yeux perdus dans les étoiles qui commençaient à se lever, Igor s'éloigna dans la mer noire. Il nagea longtemps dans une sorte de transe en se chantant des bouts de vieilles rengaines russes qu'il répétait inlassablement, jusqu'à les déformer complètement, n'en conservant plus qu'un ou deux mots, comme des mélopées magiques. Les oreilles sous l'eau, son murmure résonnait avec un volume considérable, lui donnant l'impression d'emplir l'univers entier. Peu à peu, l'eau se fit plus fraîche, mais il la sentait à peine. La tête renversée en arrière, il flottait comme un enfant dans une bulle, rêvant à quelques plongeons indicibles dans ce ciel dont ses professeurs lui avaient dit qu'ils étaient non pas au-dessus de lui, mais à côté, en dessous, tout autour. Pendant un temps indéfini, il tenta de ressentir avec son corps cet espace que le premier Spoutnik parcourait depuis quelques mois, comme si, à la seconde où il serait parvenu, il eût immédiatement été arraché sur le globe des étoiles. Ce n'est qu'arrivé au large, quand la nuit fut vraiment noire, et que Sébastopol tout entière s'offrit à sa vue en collier de lumière, qu'Igor commença à prendre conscience de ce qu'il était en train de faire, et de l'irrémédiable de sa situation. Peu à peu, sa gorge se transforma en boule de paille de fer. Jusque-là, un instinct fou l'avait poussé en avant. Depuis quelques jours, ça avait été comme une obsession, une idée fixe, à la limite de la folie, partir à la nage droit devant lui et ne plus revenir. À aucun moment, il n'avait réfléchi de façon humaine, normale, intéressée. Et voilà qu'il n'était plus possible de différer la réflexion. L'eau se faisait lourde et il était à une dizaine de kilomètres de la côte. Au-delà, il deviendrait impossible de rebrousser chemin. Brusquement, pour la première fois en tant de jours, son cerveau logique se réveilla. S'il n'avait été ainsi bon nageur avec ce pantalon et cette chemise gonflée d'eau, il aurait déjà coulé depuis longtemps. Mais Igor était le meilleur crawler de fond de sa promotion. Tous les jours, il faisait au minimum 10 kilomètres en nage coulé. C'était son beau-père, le second mari de sa mère, qui lui avait appris à aimer l'eau. Igor songea soudain à cet homme avec beaucoup de tendresse. C'était à lui, en fin de compte, qu'il devait le plus. Le seul qui ait partagé son amour de la nature. Ensemble, ils avaient passé des heures à se baigner dans les rivières parfois glacées de Sibérie, puis de la région de Moscou. Nul doute que sans lui, Igor ne serait jamais devenu ce nageur hors pair. Depuis, le brave homme avait vieilli et les rivières du RSS avaient commencé à pourrir. Igor poursuivit sa folle course vers le large. Combien de temps nagea-t-il encore petit à petit? Une sorte de fièvre s'empara de son esprit et il cessa presque complètement de nager, se contentant de faire la planche. Il lui sembla que le jour commençait vaguement à poindre quand il sentit qu'il arrivait au bout de ses forces. Brusquement, il trouva l'eau très froide. Très froide qu'en hiver, plus froide qu'en hiver, cassant la glace ou deux points distants d'une dizaine de mètres, il s'amusait à passer d'un trou à l'autre à la manière des ours blancs. Toujours sur le dos, s'étalant le plus largement possible à la surface de la mer, Igor tenta avec acharnement de ne pas penser, de faire durer le plus possible jusqu'au bout, l'impression de bulles chaudes flottant dans l'espace. Mais la réalité de plus en plus froide venait l'arracher à son rêve par vagues inquiétantes. Un instant, alors qu'un cargo passait à quelques centaines de mètres de lui, un flottement se fit dans son esprit. D'un seul coup, il voulut retirer toute cette étoffe qui l'entraînait insidieusement vers le fond, mais il était trop tard. Igor tenta de se redresser, ses muscles refusèrent de lui obéir, il fut pris de panique. Avec tout ce qui lui restait d'énergie, il voulait absolument changer de position, de retourner sur le ventre pour voir le moment venir. Ce faisant, il ne réussit qu'à s'enfoncer et se mit à boire ses premières tasses. L'étranglement salé mit un comble à sa soudaine frayeur. Retrouvant un instant l'usage de ses membres, il battit l'eau opaque confusément. Son esprit s'emplit de rouge. Trois fois, il se sentit aspiré par la mer. Trois fois, il parvint à reprendre une bouffée d'air, puis il eut la sensation d'exploser. Sa vie entière défila devant ses yeux. Il revit le visage de sa mère, celui du vieil homme de la forêt, un harmonica rouge que son père lui avait offert pour ses 4 ans. Et soudain, dans un élan parfaitement absurde, Igor se mit à appeler au secours, à hurler à l'aide, intérieurement à supplier. Qui ? Il se mit à supplier le néant lui-même, de renverser l'effrayant processus qu'il avait lui-même déclenché. Son cœur hurla de terreur, le monde entier bascula dans un indescriptible remous. Il lui fallut une éternité pour comprendre où il se trouvait. Avec beaucoup de difficulté, il se redressa sur ses avant-bras. D'abord, il vit le sable. Des milliards de grains de sable qu'il regardait scintiller sous lui, longuement comme halluciné. Puis, il se vit lui-même dans son absurde tenue militaire, toute déformée par l'eau de mer. Ensuite, il réalisa que le jour s'était levé et qu'il gisait sur une plage. Un éclair lui fit exploser la tête. D'un bond, il se retourna vers la mer et il les vit, là, jouant dans les vagues. Deux dauphins le regardaient fixement, à 20 mètres du rivage. Et brusquement, Igor eut l'impression de sortir d'un long rêve, ou plutôt le plus mystérieux des rêves lui revint à la bouche, aux poumons, au corps entier. Il était juste en train de couler, groggy, d'eau salée, quand il avait ressenti ce choc sous son aisselle gauche. Dans un dernier soupçon de conscience, il avait simplement pensé, avec une résignation terrible, « les requins ». Plus tard, il y songea souvent, avec étonnement. Il n'y a pratiquement pas de requins en mer Noire, il le savait. Mais à cet instant de chute finale, l'image de requin avait peut-être représenté quelque chose de plus terrible, de plus général que le squale de chair et d'os. C'était l'estocade symbolique, la preuve que le destin acceptait sa décision de mourir, la faisait sienne. Il voulait finir dans la mer, on lui prêtait main forte, il mourait dans ses mâchoires. Là-dessus, il avait basculé dans le rêve. Une force étrange l'emportait par-delà les flots, à la fois douce et ferme, une forme comme il n'en avait jamais rencontré jusque-là. Et bientôt, une seconde poussée s'était fait sentir sous l'échelle droite, sous l'aisselle droite. Et la force qui le soutenait maintenant sous chaque bras, malgré la vitesse, faisait à peine mousser l'eau devant son visage. Chaque année, des dauphins sauvent des humains de la noyade. Pourquoi ? Au début, le grand esprit dormait dans le rien. Son sommeil durait depuis l'éternité. Et puis soudain, nul ne sait pourquoi, dans la nuit, il fit un rêve. En lui gonfla un immense désir, et il rêva la lumière. Ce fut le premier rêve, la toute première route. Longtemps, la lumière chercha son accomplissement, son extase. Quand finalement elle trouva, elle vit que c'était la transparence. Et la transparence régna. Et voilà qu'à son tour, ayant exploré tous les jeux de couleurs qu'elle pouvait imaginer, la transparence s'emplit du désir d'autre chose. À son tour, elle fit un rêve. Elle qui était si légère, elle rêva d'être lourde. Alors apparut le caillou, et ce fut le deuxième rêve, la deuxième route. Longtemps, le caillou chercha son extase, son accomplissement. Quand finalement il trouva, il vit que c'était le cristal, et le cristal régna. Mais à son tour, ayant exploré tous les jeux lumineux de ses aiguilles de verre, le cristal s'emplit du désir d'autre chose qui le dépasserait. À son tour, il se mit à rêver. Lui qui était si solennel, si droit, si dur, il rêva de tendresse, de souplesse et de fragilité. Alors apparut la fleur, et ce fut le troisième rêve, la troisième route. Longtemps la fleur, ce sexe de parfum, chercha son accomplissement dans l'extase. Quand enfin elle trouva, elle vit que c'était l'arbre, et l'arbre régna sur le monde. Mais vous connaissez les arbres, on ne trouve pas plus rêveur qu'eux. Ne vous amusez pas à pénétrer dans une forêt qui fait un cauchemar. L'arbre, à son tour, fit un rêve, lui qui était si ancré à la terre. Il rêva de la parcourir librement, follement, de vagabonder à travers elle. Alors apparut le ver de terre, et ce fut le quatrième rêve, la quatrième route. Longtemps, le ver de terre chercha son accomplissement, son extase. Dans sa quête, il prit tour à tour la forme du porc-épic, de l'aigle, du puma, du serpent. À sonnette, longtemps il tâtonna. Et puis, un beau jour, dans un immense éclaboussure, au beau milieu de l'océan, un être très étrange surgit, en qui toutes les bêtes de la terre trouvèrent leur accomplissement, et elles virent que c'était la baleine. Longtemps, cette montagne de musique régna sur le monde, et tout aurait pu en rester là, car c'était très beau, seulement voilà. Après avoir chanté pendant des lunes et des lunes, la baleine, à son tour, ne put s'empêcher de s'emplir d'un désir fou. Elle qui vivait fondue dans le monde, elle rêva de s'en détacher. Alors, brusquement, nous sommes apparus, nous, les hommes, car nous sommes le cinquième rêve, la cinquième route, en marche vers le cinquième accomplissement, la cinquième extase. Thank you.
Pourquoi quelques mots prononcés nous ramènent au monde et à son odeur. Combien même me croirais-je visionnaire, tout reste comme des graines ensemençables, comme perles glissent sur un cordon. Il y a toi, ma sœur, mon amie, puis toi, mon frère, puis la liste, finalement, est jamais trop fermée, non exhaustive, sauf peut-être dans l'instant qui nous unit et nous ravit le cœur et l'âme. Il y a quand même la chaleur de la présence. Lire ou écouter, finalement, c'est pareil. Vous êtes venu lire ou écouter, lire quelques mots, quelques phrases, quelques vers, quelque chose de quelqu'un mis en forme pour le dire. Car c'est important, un secret de chaman partageable. C'est le pourquoi. C'est le pourquoi de la sirène hurlante. C'est le pourquoi de tout ce qui se passe autour de nous. C'est le pourquoi de ce qui fait tourner le monde et le fait vaciller parfois. Nous sommes venus lire ou écouter, lire quelques mots, quelques phrases, quelques vers, quelque chose de quelqu'un mis en forme, pour le dire, dans l'instant, car c'est important, un secret de chaman partageable, lire ou écouter finalement, c'est pareil. Laisse-moi le temps. Le temps. Quand j'étais petit garçon, je conservais un livre dans lequel, de temps à autre, je pressais des fleurs, jusqu'au jour où j'eus une belle collection. L'asphodèle, comme un présage, en faisait partie. Je t'apporte, ressuscité, un souvenir de ces fleurs. Elles étaient suaves quand je les pressais et conservais longtemps de leur suavité. C'est un parfum curieux, un parfum moral qui m'amène auprès de toi. La couleur disparut la première. Je dus relever un défi. Ta chère personne, moi, simple mortel, gorge de lys à l'oiseau-mouche, une richesse infinie. Infinie, pensais-je, qui me tendait les bras. Un millier de thèmes dans une fleur de pommier. La terre, en sa prodigalité, ne nous refusait rien. Le monde entier devint mon jardin. Asphodèle.
did I go? And no man before me bothered to go. Though the soles of my shoes are shot full of holes, and it's all downhill with a bullet. Is taking its course. I'm grazing with the dinosaurs and the dear old horses, and the city streets crack, and a great hole forces me down my soapbox, my pulpit. The theater seal, the silver star spangled, and the coins in my pocket go jingle. Childhood to ransom. On the screen there's a death, there's a rustle of cloth, and a sickly voice calling me handsome. There's a man in the theater with sly girlish eyes. On the screen there's a neat big gorilla. There's a groan, there's a cough, there's a rustle of cloth, and a voice that stinks of death and vanilla. Now this is a secret, mauled and mangled, and the coins in my pocket go jingle, jangle. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Blood. The lights go down, the red curtains come apart. His air is full of smoke and dialogue I know by heart. And the coins in my pocket jingle jangle. As the great screen crackled and popped, and the clock of my boyhood was wound down and stopped, and my handsome little body, my heartbeat propped, and my trousers right down at my ankles. Yes, onward and upward, and I'm off to find love. You love me, if you do, I'm thankful. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Running by the river, it gives a lot, but it takes it away. My youth, there comes a time when you just cannot deliver. Well, this is a fact, this is a stone cold truth. Do you love me?
I love you handsome.
Do you love me?
Yes, I love you.
Le feu brûle, c'est la première loi. Quand le vent l'attise, les flammes s'étendent alentour. La porte attise les flammes. Tout a été combiné pour qu'écrire vous consume. Et non seulement de l'intérieur, en soi, écrire n'est rien. Se mettre en condition d'écrire, c'est là qu'on est possédé. C'est résoudre 90% du problème. Par la séduction ou à la force des bras. L'écriture devrait nous délivrer. Nous délivrer de ce qui alors que nous progressons, devient un feu destructeur. Car l'écriture vous assaille aussi, et on doit trouver le moyen de la neutraliser, si possible à la racine. C'est pourquoi écrire, pour écrire, faut-il avant tout à 90% vivre. Surtout vivre à 90%. Les gens y veillent, non pas en réfléchissant, mais par une sous-réflexion. Ils veulent être aveugles pour mieux pouvoir dire « Nous sommes fiers de vous ». Quel don extraordinaire! Tout le monde peut écrire, absolument. Entendez-vous, dans vos campagnes, tout le monde peut écrire. Comment trouvez-vous le temps nécessaire, vous qui êtes si occupé à être esclave? Ça doit être merveilleux d'avoir un tel passe-temps. Mais vous avez toujours été un enfant bizarre. Comment va votre mère? La violence du cyclone, le feu, le déluge de plomb et enfin le prix. Votre père était si gentil. Je me souviens très bien de lui. Ou Crénon, docteur, je suppose que c'est très bien, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? En respirant dans les livres, les vapeurs âcres, pour parvenir à déchiffrer faussant le sens pour détecter la norme, pour traverser le crâne de l'habitude et atteindre un lieu où la tendresse des femmes et des enfants sont exclues. Une tendresse pour ce qui brûle et souffler en toute hâte la multiple nuit. Des livres se lèvent et entonnent une fois encore sa chanson en attendant le déshonneur de l'aube. Ça ne durera pas toujours aux abords de l'immense mer. L'immense, immense mer balayée par les vents. La mer devint sombre. La mer devint sombre le vin. Un cyclotron, une criblure. Et là, dans le silence du tabac, dans le tipi, ils sont étendus en tas, un tas de livres, antagonistes et rêves de tendresse. Ils ne peuvent pénétrer, ne peuvent secouer la malice du silence, ça les forcerait à bouger, mais ils demeurent des livres, c'est-à-dire hommes de l'enfer, damnés, qu'ils règnent sur la vie qui s'achève. On me demande d'être clair. Oh, clair. Clair. Quoi de plus clair entre tout? Que rien n'est moins clair entre un homme et son écriture que de savoir qui est l'homme et quoi l'écriture et lequel des deux a le plus de valeur. L'homme et son écriture. L'écrit de l'homme à l'intérieur de ses yeux, à l'intérieur de son cœur. Tout le monde sait écrire. Tout le monde ne sait pas être parfois autre chose qu'un esclave. Et tout le monde sait écrire.
To the ground, nothing really matters.
J'ai eu mon rêve. Comme les autres, il n'en est rien sorti. Si bien que je suis maintenant insouciant, les pieds plantés au sol, et je regarde le ciel. Je sens mes vêtements sur moi. Le poids de mon corps dans mes chaussures, le bord de mon chapeau, l'air qui entre et sort de mon nez, et je décide de ne plus rêver. Car j'ai eu mon rêve, et comme les autres, il n'en est rien sorti. Puis, à 10h du matin, la jeune femme va et vient en robe de chambre derrière les murs de bois de la maison de son mari. Je passe solitaire, en voiture, puis elle revient au bord de la route pour appeler le marchand de glace, le poissonnier, et debout, timide, sans corset, elle range des mèches rebelles et je la compare à une feuille tombée. Je passais là par hasard. Les roues silencieuses de ma voiture avancent et font craquer les feuilles sèches. Je salue et souris en passant dans un moment poétique. Juste poétique par essence même de la vie, car la vie est toute poétiquement essence de présence et d'événements qu'on peut qualifier de poétiques. Je m'éveillais heureux et la maison était étrange. Puis je me rappelais ce que j'avais rêvé. Une jeune fille que je connaissais bien se penchait à la portière de ma voiture et me caressait la main. Je la rencontrerai dans la rue, nous dirons des choses banales, elle et moi, mais je ne cesserai jamais de chercher dans ses yeux ce regard paisible. Je voulais écrire alors un poème que tu comprendrais. À quoi me servirait-il si tu ne pouvais le comprendre? Mais tu dois faire un effort. Mais écoute, tu sais comme les petites filles courent en riant dans Park Avenue la nuit tombée quand elles devaient être au lit chez elles. Eh bien moi, je suis comme ça aussi. Enfin, fais un effort, tu devrais comprendre mon poème. Un peu plus loin dans la rue, à une pauvre vieille femme mâchant une prune dans la rue, un sac de papier plein dans la main. Quel goût elles ont pour elles. Quel goût elles ont pour elles. Quel goût elles ont pour elles. Mais enfin, quel goût elles ont pour elles. Dans la pluie et les lumières, j'ai vu le chiffre 5 en or sur une voiture de pompiers, rouge, avançant, tendu, inaperçu, dans les sonneries des cloches, les hurlements des sirènes et le grondement des roues, dans la ville sombre où j'avance. La descente est appel, comme la montée fut appel. Avec le soir, l'amour s'éveille. Quoique ces sombres s'animent pour cela que le soleil brille, s'assoupissent soudain et se détachent du désir. Un amour sans ombre vibre soudain, commence à s'éveiller, comme la nuit avance. La descente, faite de désespoir et privée de perfection, accomplit un nouvel éveil qui est un retournement du désespoir. Puis revenons à l'asphodèle qui n'a pas d'odeur sauf pour l'imagination. Mais n'oublie jamais qu'elle aussi célèbre sans arrêt la lumière, au moins dans ton souvenir. J'avance dans cette ville. Et je vois tout ça. Et j'ai envie d'écrire, car tout le monde sait écrire. Il n'est plus rien. Il est mort, ratatiné sous sa peau. Mettez sa tête sur une chaise et ses pieds sur une autre et il sera là, comme un acrobate. L'amour est vaincu. Il l'a vaincu. C'est pourquoi il est insupportable. Parce que il fait que l'amour, un hurlement contenu d'angoisse et de défaite, sans arrêt. Du désordre, chaos, l'ordre jaillit, jaillit fertile, le chaos le nourrit. Le chaos nourrit l'arbre. La beauté rigoureuse est notre quête, mais comment trouverez-vous la beauté alors qu'elle est prisonnière de l'esprit? Toute preuve abolie. car il est un vent ou l'esprit d'un vent dans tous les livres faisant écho à la vie là, un vent haut qui emplit les conduits de l'oreille au point que l'on croit entendre le vrai vent. Entendre le vrai vent. Le vrai vent. Le vrai vent. Avant de partir, soulevé comme l'air, porté multicolore, surface marine divisée comme la rosée, brume flottante. Et puis le roc marié à la rivière ne fait aucun bruit, et la rivière passe, mais je demeure, et je crie, et j'appelle sans cesse les oiseaux et les nuages. Le sang coule paisible et indifférent, ni le visage ne souffre, ni le sol ne sue. Ni la bouche n'est sèche. La forme des émotions est cristalline, ses facettes sont géométriques. J'aime le caroubier, le doux caroubier blanc. Combien coûte-t-il d'aimer le caroubier en fleurs? Combien ça coûte? Je sens la caresse de mes doigts sur mon cou quand je mets mon col et je pense avec tendresse aux douces dames que j'ai connues et aux questions stupides que je me posais. Que le serpent attende sous son herbe et que l'écriture soit deux mots, lent et rapide, prompt dans l'attaque, patient dans l'attente, vigilant. Par la métaphore, réconcilier les êtres et les pierres, composer. Il n'est d'idée que dans les choses inventées. Saxifrage est ma fleur qui fend les rochers. Mais moi, qui suis vraiment un vieillard ou un vieillard à devenir, j'en ai assez. Le principe féminin du monde est mon appel à l'extrémité où je suis rendu. Une haine radicale parfois porte une fleur. Pour cristal, elle est camélia blanc. Elle prend la forme de l'amour et l'amour selon toute apparence. Il est dans le dur don et l'offrande de la vie d'un homme avec une femme, une chose qui n'est pas contrainte exactement, mais au-delà et au-dessus de ça. Quelque chose qui veut s'élever et se rendre libre. Quelque chose qui veut s'élever et se rendre libre. Je voudrais le répéter comme un mantra. Quelque chose qui veut s'élever et se rendre libre. Quelque chose qui veut s'élever et se rendre libre. À répéter comme un mantra. 10 fois, le matin, au réveil. Quelque chose qui veut s'élever et se rendre libre. Quelque chose qui veut s'élever et se rendre libre. Ce sera, c'est, et ce fut l'amour. J'ai eu mon rêve, et comme les autres, il n'en est rien sorti. Et je décide de ne plus rêver. Mais j'ai eu mon rêve. J'ai eu mon rêve. J'ai eu mon rêve. William Carlos Williams. Vous étiez dans l'émission des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Vous avez entendu ce soir des musiques de Django Reinhardt, Stéphane Grappelli, Cab Calloway, John Lurie, l'Inconsolable, la BO de Tango Roxanne, le blues du dentiste, Schubert, Elvis Presley, Bobby Lapointe, Bratsch, la BO d'In the Mood for Love, Nick Cave. Vous avez entendu aussi la musique de Joseph Van Wissem, la BO de Only Lover Left Alive. Vous avez entendu sur ces musiques des textes lus de
Henri Michaud, tiré de Plume aux éditions Gallimard.
Et puis
un texte de Patrice Van Essel, Le cinquième rêve, Le dauphin, l'homme, l'évolution.
Et des poèmes de William Carlos Williams. Prochaine émission, le 28 décembre de l'an de grâce 2017. En n'oubliant pas que tout le monde sait écrire et lire et que c'est la même chose finalement. À la technique ce soir, monsieur Christophe Becro, à qui nous rendons grâce. Vous avez entendu des textes d'Henri Michaud lus par Nathalie Vautier et les textes de Patrice Van Essel par monsieur Alain Giustiniani.
Les textes de Williams, Carlos Williams, étaient lus par James Fontaine.
Je vous dis donc au 28-12-2017. Bonne soirée.